오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은
La parole de Dieu se trouve dans l'évangile de Matthieu chapitre 13 verset 47 à 50. Lisons à tour de rôle. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on recueille dans des vases ce qui est bon et l'on jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Prions pour pouvoir écouter la parole de Dieu aujourd'hui aussi. Alors, nous sommes devant la parole de Dieu. Il faut que nous écoutions donc la voix du Saint-Esprit qui s'adresse aux Églises avec l'inspiration nécessaire. Prions donc pour l'évêque et prions pour nos âmes. Le Père, merci de nous avoir commandé le jour saint. Et alors merci donc d'aller au-devant de toi avec humilité pour écouter attentivement ta parole et de nous à vivre et être remplis de vie en recevant ta parole. Je prie au nom de Jésus. Le royaume des cieux qui fait la distinction entre le bien et le mal. Dieu est la justice. Il a aimé le monde et il a donc tendu un filet dans le monde entier. Il s'agit de la propagation de l'évangile. Il y a de bons poissons et de mauvais poissons. Les premiers seront mis dans son vase et les seconds seront jetés dans la fournaise de feu. Mais il ne veut pas tous les poissons qui sont mis dans le filet. Il veut seulement les bons poissons. Et qui sont les bons poissons? Ce n'est pas tous les poissons mis dans le filet qui sont bons. Il ne suffit pas donc d'entrer dans l'Église pour être bon. Il faut que nous soyons satisfaisants à ses yeux. Si toutes les familles sont de bons poissons, ce sera idéal. Mais si, supposons qu'il y ait deux familles, l'une sera enlevée, mais l'autre sera laissée. Les gens sont en train de faire cette opération pour faire le bien et le mal. Il ne faut pas que nous tomberons donc dans la main des anges, c'est-à-dire de la loi. Il faut que nous devenions hommes du Saint-Esprit. Le poisson est ictus en version originale. Ictus, les lettres initiales du mot ictus sont les mots initiales de Jésus le Christ, Dieu le Fils et le Seigneur et le Sauveur. Il faut donc le poisson signifie la confession de la foi. Celui qui a une foi qui correspond à sa confession de la foi est un mauvais poisson, mais celui qui a une foi qui correspond à la confession de sa foi est un bon poisson. L'évangile est un filet. Est-ce que la confession de votre foi est bien certaine? Est-ce que vous êtes un bon poisson? Pour sauver les âmes, il faut que la confession de votre foi soit claire. Il faut que nous soyons remplis de cette vie. Dieu est la justice. La justice. Qu'est-ce que c'est la justice? Il n'y a pas de inclinaison anormale à gauche ou à droite. C'est un principe qui est inchangeable, qui a été établi par Dieu lui-même. Alors si Dieu a parlé, cette parole ne peut pas être changée parce que c'est lui-même qui a fait un serment. Donc, la parole que Dieu nous a donnée, c'est une parole basée sur son serment. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de mensonge pour notre Dieu le Père. Parce que Dieu ne peut pas éviter la justice, même s'il est Dieu. Donc, sa parole ne peut que s'accomplir coûte que coûte. Parce que c'est ça la justice. C'est un principe de Dieu. Alors, il l'a dit par sa bouche, « Si tu en manges, tu mourras. » Donc, cette parole est la justice. C'est pourquoi Dieu ne peut pas transcender cette justice. Donc, eux, en fait, ils ne peuvent que mourir inévitablement parce qu'ils ont transgressé la parole de Dieu. Mais même si ils sont dans une situation malheureuse, Dieu ne peut pas évoquer sa parole. Il a pitié des hommes parce qu'il les aime. Mais pour sauver cette humanité, il faut que Dieu lui-même meure à sa place. C'est ça la justice de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a dit, tu vivras. À ce moment-là, nous vivrons. Mais si Dieu nous dit, tu mourras, nous mourrons. C'est ça notre foi. À travers la loi, il nous a fait savoir que le monde est destiné à périr. Mais via l'Évangile, il nous a dit, « Dis, vivra, je te sauverai. » Alors Dieu lui-même ne peut pas révoquer sa parole, déjà prononcée. C'est lui-même qui est responsable de ces paroles-là. Donc, il a envoyé son Fils unique pour rembourser nos dettes, pour nous sauver. Donc, nous sommes entrés en Jésus. Nous avons tous reçu sa grâce. Nous avons obtenu le salut. Lorsque nous avons été sous la loi, nous serons jugés selon cette loi-là parce que nous avons été définis comme des pécheurs. Le prix du péché, c'est la mort. Alors, ce que dit la loi, qu'est-ce que c'est? Que ce soit la taille, la grandeur du péché, si on pêche, on ne peut que mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tous les pécheurs ne peuvent être jetés dans le feu de l'enfer. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Alors, il y a beaucoup de réactions face à la parole de Dieu, mais si Dieu nous dit qu'il mourra, on ne peut que mourir. C'est le résultat de notre désobéissance à la parole de Dieu. Mais il nous a donné sa grâce. La grâce aussi constitue sa justice. C'est la raison pour laquelle, et ce n'est pas Dieu lui-même qui a fabriqué la grâce. En fait, il l'a... fait des sacrifices pour rembourser toutes nos dettes pour nous sauver. C'est la raison pour laquelle est-ce que nous allons opter pour l'enfer ou pour le royaume des cieux selon la justice de Dieu. Alors, c'est nous qui devons décider. Mais Dieu nous a dit, heureusement, c'est le moment de recevoir sa grâce, la grâce de Dieu. La loi est vraiment redoutable, n'est-ce pas? Alors, c'est là pour laquelle il faut absolument recevoir sa grâce. Il faut absolument recevoir sa grâce. Il faut savoir la grâce pour ne pas avoir peur de la loi et pour ne pas être opprimé par la loi. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Donc, il justifie ceux qui reçoivent sa grâce. Alors, comment nous pouvons recevoir sa grâce? C'est par la foi. Et parce que c'est un cadeau de la part de Dieu. Alors, Dieu considère la foi comme la justice. Est-ce que nous allons périr à cause du péché ou bien est-ce que nous allons recevoir sa grâce pour être sauvés? C'est la justice de Dieu qui ne peut pas être évitée par Dieu lui-même. Mais nous pouvons choisir heureusement de recevoir sa grâce pour être en vie, pour être sauvés. Donc, il y a d'autres options devant nous. Alors, si nous devons vivre selon la loi, il faut que nous gardions toute la loi. Mais il n'y a pas le salut dans la loi. C'est la raison pour laquelle il faut absolument recevoir sa grâce. Alors Dieu nous a dit, Jésus nous a dit, venez à moi et apprenez-moi et mettez mon joug sur votre dos, parce que mon joug est léger. Mais l'évangile est vraiment facile et très léger, c'est la raison pour laquelle on a du mal à accepter cet évangile qui est trop léger à nos yeux. Mais ce que Dieu nous demande de faire, c'est recevoir sa grâce. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'Évangile. C'est-à-dire qu'il faut accepter Jésus qui s'est chargé de tous nos péchés, de nos fautes commises. Il faut donc absolument recevoir sa grâce. Plus on a peur des péchés, plus on doit recevoir sa grâce. Si vous avez péché, il faut que vous receviez sa grâce. Plus vous avez peur des péchés, plus vous devez recevoir la grâce de Dieu. C'est ça l'Évangile. Alors, comment nous pouvons recevoir la grâce de Dieu? Alors, j'étais pécheur par le passé. Alors maintenant, par le mérite de Jésus-Christ, en nous remettant à son mérite, alors, je vais accepter ton mérite, je vais accepter ta grâce. Pour cela, il faut se faire baptiser. Et en recevant le baptême, notre statut est changé complètement. Bien que Jésus soit le Fils de Dieu, il s'est fait baptiser aussi. Pourquoi? Par le baptême, nous pouvons être coupés de notre passé. Jésus était un juif, il était un Nazaréen. Il était un juif, tout simplement, mais il s'est fait baptiser. Alors, il n'était plus un Nazaréen, il n'était plus un juif, il n'était plus un descendant de David. Il n'était plus un descendant d'Abraham. Il était tout simplement le Fils de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a dit, après son baptême, « C'est mon Fils bien-aimé qui fait ma joie. » Alors, par ce, donc, il s'est fait baptiser et son statut a été complètement changé. Nous avons reçu la grâce de Dieu aussi. Alors, comment nous pouvons accepter la grâce, le fait que nous avons reçu sa grâce? Comment nous pouvons faire cette confession? Comment nous pouvons faire cette expérience? C'est par le baptême. Le baptême, ce n'est pas un rite. Il faut que nous apprécions absolument la justice de Dieu. Pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Pour quelle raison? Alors, Jean-Baptiste a dit à Jésus, comment tu peux venir à moi pour être baptisé? Mais Jésus lui a dit, il faut accomplir la justice de Dieu. Pour cela, je dois être baptisé par toi. C'est ce qu'on appelle la justice. Donc, même si vous avez reçu la grâce de Dieu, vous devez vous faire baptiser. Parce que sans le baptême, on ne peut pas approuver la grâce de Dieu reçue. Donc, c'est un ordre que nous devons absolument observer. Après avoir reçu la grâce de Dieu, il faut donc recevoir le baptême. Donc, après avoir reçu le baptême, il faut que nous soyons totalement coupés de notre passé. Il faut que nous enterrions notre passé pour nous unir à Jésus. Donc, il ne faut pas recevoir la grâce d'une manière insignifiante. Il faut absolument recevoir la grâce de Dieu, votre famille aussi. Il est dit dans le texte qu'on vient de lire. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer. C'est une parabole. La parabole est un symbole. Mais il est dit donc que le royaume des cieux est totalement semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Donc la procédure appliquée au royaume des cieux est totalement la même que la procédure expliquée dans cette parabole. Donc, ce qui veut dire ici, qu'est-ce que c'est? On a donc tendu un filet, ensuite on fait la distinction entre les bons poissons et les mauvais poissons. Et donc, les bons poissons sont ceux qui ont reçu la grâce de Dieu et qui ont gardé la foi jusqu'au bout. Donc, c'est ça le royaume des cieux. On a tous reçu la grâce de Dieu. Maintenant, c'est le moment de recevoir la grâce, c'est le moment de l'obtention du salut, mais nous serons tous mis devant le jugement de la justice de Dieu. Est-ce qu'on est toujours sous la loi ou bien est-ce qu'on est dans la grâce de Dieu? Est-ce qu'on a toujours peur du péché commis ou bien est-ce qu'on a reçu la grâce et donc est-ce qu'on est en paix? C'est ça le résultat du jugement de Dieu. En fait, devant les yeux humains, il n'y a pas de distinction entre les mauvais poissons et les bons poissons. Par exemple, il y a deux personnes qui travaillent ensemble, mais l'une sera prise, mais l'autre sera laissée. Deux personnes dorment ensemble. Mais l'une sera laissée, mais l'autre sera prise. Il y a deux personnes qui travaillent ensemble dans le même champ, mais l'une sera prise, mais l'autre sera laissée. Voilà, donc c'est ce qui va se faire absolument lors du jugement de Jésus. Donc il y aura une séparation, distinction entre les bons poissons et les mauvais poissons. Il y a diverses vierges qui sont en attente de leur époux, mais il y a deux groupes. Et donc il y a toutes sortes de traitements. Alors donc ce qui importe le plus, et en premier lieu, c'est recevoir la grâce. Et ensuite, est-ce que nous avons maintenu cette grâce ou bien est-ce que nous sommes devenus hypocrites? Il y aura donc la distinction entre les brebis et les boucs. Moi aussi, j'ai vécu à la campagne. Mais à mes yeux, il est difficile de faire la distinction entre les brebis et les boucs parce que l'apparence est très semblable. Mais quelle est la différence entre la brebis et le bouc? Le bouc est un animal qui mange tout. Donc le bouc peut manger même un objet qui n'est pas mangeable. Donc le bouc mange même des chaussures. C'est ce que j'ai vu. Par contre, la brebis est différente du bouc. Les brebis mangent seulement les plantes qui ont une bonne qualité. Alors, on prie donc. Alors, Dieu va nous conduire dans de verts pâturages, près de paisibles. Alors, qu'est-ce que mangent les brebis en réalité? Alors, les brebis, elles mangent des herbes, les plantes ayant une bonne qualité. Et ils les avalent. Ensuite, ils produisent du lait. Et ils se multiplient. Et ils fécondent. Donc les brebis ne mangent pas n'importe quoi parce qu'elles sont très salubres, elles sont très pures, tandis que les boucs sont sales, ils mangent n'importe quoi. Voilà, il faut que nous donc soyons semblables aux brebis, cela signifie que nous mangeons seulement la parole de Dieu, la parole de la vérité. Il faut manger sa chair, il faut boire son sang seulement, il ne faut pas manger n'importe quoi. Donc, si on a reçu la grâce de Dieu, notre appétit est très simple, comme la brebis qui mange seulement des herbes de bonne qualité. Quelqu'un a reçu la parole de Dieu et il dit Amen après avoir reçu la parole de Dieu. Et ensuite, il doit poursuivre seulement la vérité. Mais malheureusement, ses oreilles sont très légères. C'est la raison pour laquelle il croit même aux mensonges. Et ensuite, il se perd. C'est la raison pour laquelle notre Église est confrontée à une grande difficulté, parce qu'il y a une partie des membres de l'Église qui ont mangé n'importe quelle parole. Et alors, ils ne savent pas si la parole qu'elle absorbe est mauvaise ou bonne. S'ils absorbent la parole de Dieu, ils vivront, mais s'ils croient à des mensonges, ils mourront et périront. Alors Dieu va faire la distinction entre les boucs et les brebis. Aux yeux humains, il n'y a pas de différence entre les brebis et les boucs. Nous avons tous reçu la grâce de Dieu, mais est-ce que nous sommes semblables à un bouc ou bien à une brebis qui mange seulement des herbes vivantes? Mais les boucs mangent n'importe quel objet qui n'est pas mangeable. Donc, il faut que nous soyons toujours au courant de cette différence. Lorsqu'on conduit une voiture, il y a un certain nombre de chrétiens qui mettent une étiquette sur le derrière de leur voiture pour manifester leur identité en tant que chrétien. Dans le passé, il y a eu beaucoup de martyrs. C'était une heure qui est redoutable. L'apôtre Paul, il était un docteur de la loi et pour garder la loi, il est devenu un meurtrier sérieux. Mais à un moment donné, il a rencontré Jésus, il a été changé complètement, mais il n'a pas été reconnu des hommes parce qu'il était une personne redoutable qui gardait la loi d'une manière incroyable. Donc, l'apôtre Paul devait nettoyer tout son passé pour, avec humilité. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à être reconnu des chrétiens de l'époque. Donc, il est devenu un grand apôtre. S'il n'a pas traversé un grand désert pendant 3 ans, il a été totalement coupé. Du monde. Pendant 3 ans, il a passé le désert pour être nettoyé, pour que son passé soit totalement nettoyé. Et ensuite, il est devenu un grand apôtre. C'est la raison pour laquelle la traversée du désert est absolument nécessaire. Notre église a traversé aussi un désert. Il y a eu une séparation entre les membres de l'église. Il y a une partie des membres de l'église qui ont déstabilisé cette église, notamment en mars, en avril. Et il y a eu la mise en garde mutuelle entre les membres de l'Église. Le poisson est Ictus en version originale. La prononciation est presque la même que l'expression coréenne Ictus à 98%, mais pas à 100%. Mais quand même, le coréen nous permet d'exprimer bien le mot ictus qui signifie le poisson. Le poisson est ictus en version originale. Le mot est composé des lettres initiales du mot Jésus et du mot le Christ, du mot Dieu. Et la quatrième lettre, c'est du mot, la lettre initiale du mot Fils. Ensuite, du mot Seigneur et Sauveur. Donc, chaque lettre qui compose le mot Ictus signifie c'est Jésus est le Christ et le Fils de Dieu et il est le Messie. Répétez, Jésus est le Christ. Et il est Dieu, il est le Fils de Dieu, et il est le Seigneur et Sauveur. C'est ça la justice. Est-ce que vous croyez en Jésus? Je crois en lui. Comment? Certains disent, je vais à l'église. Mais il ne suffit pas d'aller à l'église. Est-ce que vous croyez? C'est ça la question. Mais certains disent, moi je suis devenu un diacre ou diaconesse. Mais ce n'est pas une bonne réponse. Il faut que nous croyions en Jésus. Il faut que nous croyions au nom de Jésus. Il faut qu'on s'agenouille devant son nom pour être un vrai chrétien. Il y a beaucoup de noms dans ce monde. Mais le nom de Jésus est un nom qui est supérieur à tout nom. Donc, le nom que possédait Jésus, ce n'est pas un nom d'un juif, c'était le nom de Dieu qui est Jésus. Et c'était lui qui était le Fils de Dieu, c'était lui qui était Jésus, c'était lui qui était le Christ. Et c'était lui qui a été envoyé au monde par Dieu le Père. Et c'était lui qui devait être crucifié pour sauver l'humanité, selon la volonté de Dieu le Père. C'était lui qui était donc le Christ, c'était lui qui était Dieu. C'était lui qui était le Fils de Dieu, c'était lui qui était le Messie. C'est ça notre foi. Donc dans le mot poisson, c'est-à-dire ictus, il y a donc une phrase qui dit que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu vivant. Mais même si on va à l'église, on ne peut pas être sauvé. Même si on confesse que je vais à l'église, on ne peut pas être sauvé. Pour être sauvé, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. À ce moment-là, on aura l'autorité d'enfant de Dieu et on aura donc la grâce de Dieu. Il faut que nous croyons donc en Jésus pour être en vie, pour être sauvé. Il faut que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut que nous considérions Jésus comme le Fils de Dieu, non pas comme le Fils d'un homme. Et alors, c'est lui qui est le Messie. Donc, il y a cinq éléments dans la confession de notre foi. D'abord, Jésus est le Christ. Répétez. Jésus, le Christ, Dieu, Fils et Messie. J'ai déjà posé une question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent? Qui je suis? Alors, ses disciples disaient, tu es un Christ, tu es un prophète, tu es un juif. Mais l'un des disciples de Jésus a répondu à cette question, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ. » C'était Pierre qui a donné cette réponse. Il a été donc félicité de Jésus. Alors, heureux, fils de Jonas, c'est Dieu qui t'a fait connaître ce fait. Et je vais établir mon église sur cette pierre. Je te donne les clés du royaume des cieux. Alors, tu peux ainsi ouvrir le royaume des cieux à ton gré parce que tu as les clés du royaume des cieux. Vous dites que j'ai reçu la grâce de Dieu, mais vous êtes encore émotionnel. Si vous êtes de bonne humeur, vous dites que j'ai reçu la grâce. Si vous avez compris une chose, j'ai reçu la grâce. C'est ce que vous dites d'une manière négligeable. Mais il faut que nous dépendions d'abord du mérite de Jésus-Christ. Il faut que nous acceptions le mérite de Jésus pour être sauvés. Jésus-Christ a souffert énormément sur la croix. C'est pour nous-mêmes. Et par sa grâce, tu as été sauvé de mes péchés. Ensuite, on accepte son mérite et sa grâce. Et ensuite, on se fait baptiser. Donc, il faut que nous ayons absolument le nom de Jésus dans nos âmes. Jésus est mort à ma place. Il a été envoyé pour mourir à ma place. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est le Fils de Dieu. C'est lui qui est mon Seigneur. C'est lui qui est mon Seigneur et Sauveur. Pour aller se marier, il faut qu'on se marie non seulement au niveau mental, mais aussi au niveau physique, n'est-ce pas? On ne peut pas se marier simplement mentalement. Et en Corée, la date de naissance est très importante. Et la famille de l'épouse informe l'épouse informe à la famille de son époux de la date de sa naissance. À ce moment-là, cette femme en question est complètement coupée de sa famille. Donc, si la date de naissance est informée à la famille de son époux, et si celle-ci accepte cette information, la femme en question qui se marie ainsi est totalement coupée de la famille de ses parents. Donc, c'est ainsi qu'on devient un membre à part entière d'une autre famille via le mariage. Voilà, c'est quelque chose de bien clair, n'est-ce pas? Donc, si on a reçu la grâce de Dieu, il faut que nous comprenions correctement la signification du salut. Il faut que nous recevions la grâce de Dieu parce qu'il est le Christ, parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est le Messie. Hein? Voilà. Donc, il faut que nous recevions la grâce de Dieu d'une manière bien certaine. Ensuite, il faut que nous accueillions Jésus dans nos âmes. Lorsque je lis la Bible, chaque fois que je lis la Bible, je pleure. Jésus a été ressuscité et il a rencontré ses disciples juste après sa résurrection. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses disciples après sa résurrection, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Parce qu'il a été sous la tombe, sous la terre pendant 3 ans, pendant 3 jours, pardon. Mais il n'était pas allé encore à son père. Avant d'aller vers son père, il a rencontré ses disciples et il leur a dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Alors ses disciples lui ont donné quelque chose à manger. Alors Jésus a mangé tout ce qui a été donné par ses disciples. Ensuite, il leur a demandé de recevoir le Saint-Esprit promis. Et pendant 40 jours, il a séjourné sur cette terre. Pendant 3 jours, il n'a rien mangé pendant dans le sépulcre pour donc sortir de sa faim. Il a demandé à ses disciples de lui donner quelque chose à manger. Et ensuite, il s'est séparé de ses disciples. Et pendant 40 jours après cette séparation, il a séjourné sur cette terre. Et pendant 40 jours, où était-il? Je pense toujours au séjour de 40 jours de Jésus sur cette terre. Est-ce qu'il avait mangé? Est-ce qu'il avait soif? Est-ce qu'il avait faim pendant ces 40 jours? Est-ce qu'il a pu donc satisfaire cette faim? Est-ce qu'elle a pu satisfaire sa soif? Ce sont les questions que je me pose. Et est-ce qu'il a pu bien dormir? Où il a dormi pendant ces 40 jours? Et est-ce qu'il a été dans la solitude? Et est-ce qu'il a bien vécu dans ce monde pendant 40 jours après sa résurrection? Ce sont les questions que je me pose. Est-ce qu'il pouvait mendier? Parce que pendant 3 jours, il n'a rien mangé dans le sépulcre. Est-ce qu'il pouvait travailler pour pouvoir manger, pour pouvoir se reposer pendant son séjour supplémentaire dans ce monde? Alors Jésus nous dit, est-ce que j'avais soif? Tu m'avais donné de l'eau? Est-ce que j'avais faim? Est-ce que tu m'avais donné des nourritures? Est-ce que quand j'étais malade, est-ce que tu m'avais soigné? Mais non, tu n'as rien fait pour moi qui étais en difficulté. Moi, maintenant, il n'est plus là parce qu'il est dans les cieux et on attend maintenant son avènement. Et nous allons tous le voir dans l'air lors de son avènement. Et à ce moment-là, ceux qui sont au paradis seront ressuscités pour voir le Jésus qui est revenu au monde. On ne sait pas quand il reviendra. Mais Jésus reviendra coûte coûte. Et qu'est-ce que nous devons faire jusqu'à son avènement? Les disciples de Jésus se sont égarés après la disparition de son maître, de leur maître Jésus. Alors Jésus ressuscité est réapparu devant ses disciples qui ont allé pêcher. Et alors, Jésus leur a dit, jetez votre filet dans une partie de la mer. Donc, ils ont pris des poissons. Et alors, Jésus a préparé un repas pour ses disciples. Et mangeons ensemble, c'est ce qu'il a dit à ses disciples. Donc, les disciples de Jésus ont été vraiment émus par cette apparition de Jésus. Jésus savait très bien que ses disciples avaient très faim. Il a ainsi appelé ses disciples par amour. Alors, qu'est-ce que nous devons faire donc en attendant notre Jésus? Il y a eu 5 vierges folles qui ne pouvaient pas accueillir leur époux. Attends, nous avons tous reçu la grâce de Dieu. Il était dans 1 Corinthiens 3, dit, nous sommes semblables à ceux qui construisent une maison. Certains construisent leur maison avec de l'or, ou bien certains autres avec de l'argent, certains autres avec des chaumes. Nous serons tous éprouvés par le feu. Alors si notre œuvre est brûlée par le feu et nous subirons des pertes, nous subirons donc un châtiment. Mais si notre maison n'est pas brûlée par le feu, nous pouvons être récompensés. Donc, à quel point nous pensons à Jésus? À quel point nous aspirons à notre Seigneur Jésus? À quel point nous l'aimons? C'est ce qui importe, en fait, pour nous. Jésus séjournait pendant 40 jours après sa résurrection dans ce monde. Mais est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce qu'il a bien mangé pendant cette période de son séjour? Est-ce qu'il n'a pas été sous la pluie? Est-ce qu'il n'a pas été dans la faim, dans la soif? C'est ainsi que nous devons penser à lui. Nous devons penser à sa situation de sûreté. Mais si on ne s'intéresse plus à Jésus-Christ, si on ne s'intéresse pas à sa situation, et si on se contente tout simplement d'avoir reçu la grâce de Dieu pour être sauvé, nous ne sommes pas saints. Il faut que nous pensions à l'Église, qui est le corps de Jésus-Christ. Il fait ce qu'il faut que nous soyons vraiment éveillés et ce que nous intéressons vraiment aux difficultés de l'Église. Parce que la difficulté de l'Église est la vôtre. Jésus est le Fils de Dieu. Et le Christ, c'est la raison pour laquelle il faut que nous fassions notre maximum pour ce Jésus qui nous a sauvés. Mais quelle est notre attitude vis-à-vis de ce Jésus qui nous a sauvés? Nous sommes tous des coureurs qui doivent courir. Alors, il faut que nous achevions assez notre course. Mais il y aura en fait un résultat inévitable. Alors, il y aura une seule personne qui pourra arriver en premier. Donc, ce qui importe le plus pour nous, alors, est-ce qu'on aime vraiment Jésus? Est-ce qu'on croit vraiment qu'il est le Dieu? Et est-ce qu'on croit vraiment qu'il est le Fils de Dieu? Donc, il y aura une distinction claire entre les mauvais poissons et les bons poissons. Donc, il faut que nous soyons vraiment éveillés. Nous avons remporté la victoire, n'est-ce pas? Parce que nous avons été sauvés, parce que nous avons accepté, approuvé à 100% le mérite de Jésus-Christ. On s'est uni à lui par le baptême. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut que nous soyons humbles devant Jésus, devant son nom. Et il faut que nous croyons vraiment à son nom. Est-ce que nous croyons vraiment que Jésus est le Christ? Est-ce que nous croyons vraiment que Jésus a été envoyé pour nous sauver en étant crucifié? Est-ce que nous croyons vraiment qu'il est Dieu? Est-ce que nous croyons vraiment qu'il est le Fils de Dieu? Quel était le degré de son obéissance? C'était à 100%. Donc, il faut que notre foi soit bien équilibrée. C'est-à-dire qu'il faut que nous croyions absolument que Jésus est Dieu et le Fils de Dieu. Il faut que nous soyons de bons poissons qui maintiennent un équilibre spirituel. Il faut que nous soyons de bons poissons Pour cela, il faut que nous ayons une foi exemplaire qui croit que Jésus est le Christ, le Messie et le Fils de Dieu. Et il faut que nous maintenions cette foi-là jusqu'au bout en nous dédiant totalement à Dieu le Père. Levez-vous. Levez-vous et fermez vos yeux. Seigneur Jésus, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Est-ce que vous pensez suffisamment? Est-ce que vous pensez suffisamment à lui? Est-ce que vous aimez sincèrement Jésus? Est-ce que vous aimez sincèrement le Christ? Est-ce que vous aimez sincèrement Dieu? Est-ce que vous aimez sincèrement le Fils de Dieu et votre Messie? Est-ce que vous avez donc une foi bien équilibrée? Par le Saint-Esprit, vous devez être équilibré. Prions.